Le proverbe nous dit que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu en vain. Si vous restez avec nous pendant une dizaine de minutes là sur CFM Radio, vous apprendrez aussi que celui qui a planté certains légumes n'a pas vécu non plus en vain. On parle de légumes vivaces aujourd'hui dans Plantes, histoire de plantes. C'est avec Rémi Kudik. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, légumes vivaces, Rémi Kudik, on va commencer déjà par définir exactement qu'est-ce que c'est avant de rentrer à la racine du problème.
Alors, un légume vivace ou une plante vivace en général, c'est une plante qui vit plus d'une année. Une plante donc qu'on n'a pas besoin de ressemer, de repasser par la graine tous les ans. Donc certains légumes vivaces sont adaptés à pousser chez nous, d'autres ne poussent pas sous nos climats, donc il y en a certains qu'on est obligé de ressemer tous les ans. Mais l'idée du légume vivace, c'est un légume qui va être adapté chez nous et qu'on n'aura pas besoin de replanter tous les ans. Non, vivace. Et le légume, ben, c'est une plante qui va produire quelque chose qu'on va manger plutôt dans un plat salé. Là, c'est une définition culinaire du légume. C'est, voilà. Après, tout ce qui est mangé en plat sucré, ce sera plutôt pour les desserts. Il y a des fruits qu'on mange en sucré. Par contre, la tomate, tout comme l'aubergine, tout comme la courgette, ça, c'est des fruits. Mais on les mange en salé, donc c'est des légumes.
Donc, on peut parler plutôt de plantes vivaces. Et dans ce cadre-là, ça intègre aussi les arbres, quoi. Ça, ce sont des plantes vivaces.
Ça intègre les arbres fruitiers, voilà. Ça intègre les plantes aromatiques, ça intègre les plantes sauvages. Voilà. Et donc, dans les légumes vivaces, ça sera toutes ces plantes, mais qu'on va consommer en salé.
Eh bien, comme nous sommes des gourmands, c'est des légumes vivaces en particulier dont il va être question. C'est pas pour dire que les fruits vivaces, pour le coup, ne nous intéressent pas. Mais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, toi, Rémi, en particulier, les légumes vivaces, c'est un peu ton dada. Tu nous expliques pourquoi ?
Eh bien, parce que j'ai une vie de plus en plus chargée, que je suis occupé vraiment à droite à gauche sur plein de projets qui sont toujours liés au jardin, mais je ne peux pas toujours avoir les mains dans la terre. Et il faut savoir que les légumes annuels, quand on fait du potager, ben, on y passe au final beaucoup plus de temps, enfin beaucoup de temps en tout cas, refaire les semis, préparer les zones de culture, refaire les semis, entretenir les plantations. Et quand on se loupe sur un légume annuel, ben, ça arrive souvent qu'on ait zéro récolte. Alors que sur le légume vivace, une fois qu'il est bien installé, qu'il se plaît, ben, il repousse tout seul tous les ans. Et même si on les oublie une année, ben, j'ai par exemple des asperges, j'ai des rhubarbes, j'ai plein de choses qui poussent comme ça dans mon jardin, sans que j'ai besoin de les entretenir. Et tous les ans, ben, je mange quand même des asperges alors que j'ai pas pris du tout le temps de m'en occuper. Donc c'est vraiment un côté feignant, peut-être un peu, où je me dis qu'avec moins de travail, j'arrive à quand même avoir quelques productions. Alors, je fais quand même quelques légumes annuels. Il y a des choses, la tomate par exemple, un légume vivace, j'en ai pas chez moi. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles, une fois que c'est implanté, ça pousse tout seul et ça me demande un peu moins de temps de présence dans mon jardin et ça me libère du temps pour faire autre chose à côté.
Les plantes annuelles demandent du temps, certes, mais les légumes ou plantes vivaces demandent du temps, surtout en amont, de préparation, parfois aussi de réflexion, de savoir exactement on va les mettre. Parce qu'une fois que c'est bien mis en place, ben ça se développe, on taille des fois pour circonscrire un peu le périmètre dans lequel elles vont évoluer, mais ça demande quand même du temps aussi.
Alors ça demande du temps, peut-être pour la réflexion un peu plus, parce que c'est des plantes qui vont rester plus longtemps, et donc faut faire attention à où on les met, parce qu'il faut se dire que l'endroit où on va les implanter, pendant plusieurs années, tant que les plantes seront en place, on ne pourra pas y mettre autre chose à la place. Encore que j'ai des zones où j'ai des asperges qui poussent tous les ans, mais ça ne m'empêche pas, en surface, d'y remettre quelques carottes, d'y faire des salades, d'y faire en plus d'autres choses. Mais par définition, la plante va rester en place plus longtemps, donc voilà, peut-être bien réfléchir à comment on les met en place. Par contre, au niveau de la pratique, vraiment, quand on va les planter, ben, ça prend autant de temps qu'un légume annuel. On le sème, on le repique, on va le planter, on va peut-être arroser et entretenir la première année. Mais une fois que c'est en place, ce temps-là, on n'a pas besoin de le renouveler tous les ans.
Alors, tiens, tu en as cité déjà quelques-uns, comme ça, de légumes vivaces qui sont connus. On va poursuivre un peu cette liste-là, parce que les gens ne savent peut-être pas qu'ils ont des légumes vivaces chez eux et que ça fait partie de cette famille-là.
Ouais, bon, y a quelques classiques. Hein. Quelques-uns qui peuvent paraître originaux parce qu'on s'attend pas à les trouver à cet endroit-là. Il y a des arbres qu'on peut considérer comme légumes vivaces. Le hêtre, hein, le tilleul qui est très connu, les mûriers. On a le Tuna sinensis qu'on appelle l'arbre à salade. Bah, c'est des arbres qui font des feuilles qui sont comestibles, qu'on peut tout à fait intégrer dans une salade. Alors, ça aura peut-être pas le goût d'une batavia ou d'une sucrine ou quoi. Mais on peut éventuellement même faire des mélanges de différents feuillages. Ensuite, on pourrait même, pourquoi pas, rajouter des feuillages de plantes sauvages. On connaît un peu le pissenlit maintenant, mais des salades sauvages comestibles, on en trouve un petit peu partout. Il y en a plein Mais ça peut être pas mal d'intégrer. L'ortie. Alors, l'ortie, je ne mettrai pas les feuilles d'ortie dans ma salade.
Non. Pense à la soupe déjà.
Mais ouais, un soupe, un pesto, il y a plein de choses qu'on peut faire avec aussi. Ouais, effectivement. Mmh. Et l'ortie, pour moi, ça serait vraiment la plante sauvage vivace à avoir. Parce que c'est bon déjà, parce que c'est hyper nutritif, parce que c'est hyper intéressant pour la biodiversité. Puis une fois que c'est installé, ça pousse tout seul.
Et puis ouais, tous les usages de l'ortie sont hallucinants. D'ailleurs, on avait consacré une chronique à ce sujet, au sujet de l'ortie. Ceux qui veulent aller un peu plus loin ou découvrir certaines facettes de l'ortie, rendez-vous sur cfmradio.fr. Hein, vous tapez ortie dans la barre de recherche, là, et vous tomberez sur cette chronique que l'on avait consacrée à l'ortie. Vraiment une plante aux propriétés magiques et absolument à avoir effectivement dans un coin de son jardin. Donc ça, c'est il y a des connus, hein, comme tu viens de nous citer là, de ces légumes vivaces. Est-ce qu'il y a d'autres un peu plus, on va dire, soit inconnus, soit atypiques aussi, qui seraient intéressants de signaler ici?
Il y en a des très peu connus et pourtant, moi, il y a des trucs, je me demande pourquoi les gens font pas ça. Alors je me dis, peut-être, je sais pas, peut-être que je fabule, mais il doit y avoir des gens qui font en sorte que ce soit pas trop connu pour que les gens s'embêtent à tous les ans racheter de la semence. On fait de l'oignon qu'on va ressemer tous les ans, on va faire de l'ail qu'on va ressemer tous les ans. À côté, on a de l'oignon patate qui fait des oignons qui font au moins la taille des oignons classiques et qui sont vivaces, qui vont refaire des petits bulbilles au niveau du pied. Donc tous les ans, on va quand même les récolter pour avoir une partie à manger. Les gros, on les mange, les petits, on les remet en terre. Et puis, c'est vivace, ça se reproduit tout seul. On a de l'ail, on a plusieurs ail, on dit des os peut-être plus.
Oh, ouais, des os. Ouais.
qui sont vivaces. Alors, dans les sauvages, on a l'ail des ours qui est excellent. Ah ben oui. Alors là, pour le coup, c'est pas le bulbe qu'on mange, c'est le feuillage qui a un goût qui se rapproche un peu de l'ail. Mais pour les gens qui veulent vraiment manger de l'ail, du bulbe d'ail, ben on a de l'ail vivace, on en a plusieurs. Et on en a un qui s'appelle l'ail éléphant. Et la taille du caillou fait à peu près la taille d'un bulbe d'ail annuel classique. Enfin, c'est énorme. Et ça repousse pareil, tout seul, tous les ans. On a de l'oignon vivace, qu'on appelle l'oignon rocambole ou oignon d'Égypte. On a de l'ail rocambole aussi, qui fait des bulbes un peu plus petits, mais qui sont très très bons aussi. Et ça, c'est le truc qu'on peut avoir qui pousse dans ses bordures, dans ses haies, en bord de jardin, sur un endroit qu'on va pas trop entretenir. Ça va se multiplier, ça va faire plein de petits bulbes dans tous les sens. Et puis tous les ans, si on veut avoir une grosse production, on va récupérer quelques-uns de ces petits bulbes, et puis on va les mettre en ligne, bien proprement dans son potager, comme on ferait pour de l'ail classique. Et puis ça va tout d'un coup se mettre à faire des grosses productions. Donc là, pour le coup, il y a quand même un travail à refaire tous les ans parce qu'il va falloir le planter. Sauf que au lieu de passer par une graine ou par des plants ou des petits bulbilles qu'on doit aller acheter dans le commerce, ben ça pousse dans les bordures, ça pousse dans son jardin et on n'a rien à racheter et ça marche très bien.
Donc c'est peut-être la première année lorsqu'on va chez son pépiniériste, semencier ou que sais-je encore, c'est à nous d'avoir le réflexe peut-être de demander des variétés vivaces mais de certaines plantes si elles n'existent pas, parce que souvent, comme tu le dis, c'est peut-être par ignorance. Si on va juste prendre de l'oignon et qu'on ne prend pas la variété vivace, ben jamais. Et si on ne sait pas que l'oignon pourrait être vivace sous certains aspects, ben on ne demanderait pas. Donc ça demande juste de se renseigner un peu plus, quoi.
Ouais, complètement. Mais après, le problème, c'est que vu que les gens, alors je sais pas dans quel sens ça part, mais les gens le demandent pas, donc les pépiniéristes le vendent pas. Mais les pépiniéristes le vendent pas, donc les gens connaissent pas et du coup les gens ne demandent pas. Donc c'est pas évident à trouver. Allez demander ça dans les pépinières, les endroits où on vend des plantes. Ben la plupart des vendeurs ne connaissent même pas ces plantes-là.
Et on se fournit où dans ces cas? Là, je t'envoie, je te vois déjà nous faire signe pour dire qu'il y a des sites internet par lesquels on peut avoir, on peut commander en ligne, bien sûr. On n'est pas en train de prêcher pour uniquement du commerce en ligne, mais parfois quand on n'a pas localement, ben ça reste le seul recours.
Il y en a un peu, ouais. Mais j'avoue que même moi, pour me faire mes collections, là, c'est alors. Je sais pas si on peut citer des noms là, mais
j'ai trouvé
des trucs sur Le Bon Coin, sur eBay, sur des trucs où on s'attend pas à trouver des plantes, où c'est pas forcément là qu'on va trouver des plantes, mais là on va tomber sur des particuliers, des passionnés qui vendent quelques trucs. Par contre, des pépiniéristes vraiment spécialisés en légumes vivaces, il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Si on va chez les semenciers, les producteurs de plantes classiques, ça arrive qu'il y ait une petite gamme de légumes vivaces, il faut vraiment les chercher, mais on peut les trouver. Mais des gens vraiment spécialisés là-dedans, bon, il y en a pas tant que ça. Bon, je vais citer un nom quand même.
Oui, tu peux.
Le Jardin des Merveilles.
Oui, par exemple.
On commence à se faire des collections et on est en train, avec ma compagne justement, elle est en train de lancer une pépinière où on va faire de la vente en ligne. Et puis moi, en présentiel, faut venir sur place au jardin et je commence à avoir quelques productions que je vais bientôt pouvoir partager très largement parce que ça produit finalement beaucoup ces plantes-là.
Il partage ses productions, il partage aussi ses savoirs, hein, ses savoir-faire et savoir-être aussi avec la nature au Jardin des Merveilles. Hein. Il y a des formations qui sont dispensées en présentiel souvent et en ligne aussi maintenant. Quelques formations qui sont données comme ça en ligne pour les intéressés. Donc ça permet hein, d'apporter et de faire cas de cas particuliers ou de cas que l'on vit et d'avoir des retours, même si c'est pas un retour forcément déontologique. L'idée, c'est juste d'être dans le partage et la confrontation d'idées. Rémi Culic, c'est au Jardin des Merveilles, c'est à Vaour, et c'est sur CFM Radio aussi, dans Plantes, histoire de plantes. Merci beaucoup.
Avec plaisir, à bientôt.